et de nous conduire de manière concrète aussi dans cet état, dans ce statut de fils de Dieu. Merci de préciser pour chacun d'entre nous quels sont tes plans au quotidien, que ce soit dans la vie de famille, professionnelle, que ce soit au niveau ecclésial. Merci de faire de nous des pierres vivantes dans ton Église, dans ton royaume, des gens qui t'appartiennent, et voilà, là où tu imprimes ta marque, tes objectifs, tes buts. Nous voulons te bénir de réaliser tout cela pour chacun d'entre nous. Amen. Juste quelques mots, je profite que j'ai la parole. Hier, j'étais à une rencontre des groupes écuméniques 56, 29, 35, 22, c'est-à-dire tout le Grand Ouest, dans une abbaye à Timaduc. Alors, c'est en pleine campagne, au-delà de Locminé, près de Pontivy, près de Josselin. C'est un endroit magnifique. Si une fois vous avez l'occasion de prendre votre pique-nique, c'est super sympa comme endroit. Il y a beaucoup de verdure. Vous pouvez aussi aller prendre un moment de recueillement avec l'office des moines. Voilà, si on veut se dépayser au niveau spirituel, ça peut être aussi sympa de participer à des gens qui ont des offices réguliers plusieurs fois par jour. Le thème d'hier, c'était, pour ça que j'en parle, c'était sur les chrétiens orientaux, avec des interventions avec des gens qui connaissent le sujet. On a eu une première intervention qui nous a décrit toutes ces églises, Irak, Syrie, Iran, etc., avec depuis leur origine jusqu'à aujourd'hui. Tout cela en une demi-heure, c'était pas facile. On voit que c'est pas simple. Ces églises sont sur ces territoires depuis déjà avant le IVe siècle, c'est-à-dire qu'elles sont là depuis l'origine de l'Église. Ensuite, on a eu comment ces églises ont été traitées quand l'islam est arrivé. Là non plus, on voit que c'était très complexe et très disparate. Il y a des endroits où les chrétiens ont été bien traités. Il y en a d'autres où ils ont été persécutés. Et puis, l'après-midi, on a eu un petit tour d'horizon. Comment soient les groupes écuméniques, comment soient les églises sur Brest, Rennes, Quimper, Lorient. On pouvait accueillir des gens qui étaient expulsés de toutes ces églises. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, ces églises sont pratiquement toutes, en grande partie, détruites. Ceux qui sont en exil, le peu que la France en accueille, c'est complexe. C'est des statuts administratifs, etc., compliqués. Toujours, on se pose la question, quand est-ce qu'un jour, ces églises pourront être rebâties et quand est-ce que les gens pourront revenir chez eux? C'est, à l'heure actuelle, c'est point d'interrogation. Voilà, je clôt cette partie pour qu'on pense à tous ces gens. Voilà, toutes ces églises sont nées. Jean-Louis nous a parlé la semaine dernière de la pluie de la première saison. Et aujourd'hui, nous sommes où nous attendons la pluie de l'arrière-saison. L'Église en a besoin pour être restaurée, pour être conduite. Le statut de chrétien est plus que, ou en tous les cas, le contenu du salut, c'est plus que simplement être sauvé de la peur éternelle. Ça existera d'être avec Dieu pour l'éternité ou d'être en dehors de Dieu de l'éternité. Mais d'être adopté par Dieu, c'est plus que simplement être sauvé de cette peur de la mort. C'est vraiment aussi être restauré et recevoir les clés d'une vie qui se déroule autrement. L'Écriture dit que nous sommes rois, sacrificateurs, nous sommes prophètes. Mais comment concrètement, comment recevoir, comment vivre, comment développer en nous ce statut nouveau que Dieu nous donne, non seulement qui guérit notre vie du passé, qui l'installe dans le présent, mais qui le développe, qui lui donne aussi un avenir. C'est en lisant l'Écriture que moi je me suis dit, mais ce que Dieu veut pour moi est tellement extraordinaire que ça me donne le courage et ça me motive chaque jour de ma vie, depuis 41 ans, pour continuer à avancer. Le combat, le voyage n'est pas encore fini. Et Dieu a toujours des choses nouvelles à nous donner, à renouveler en nous, même les choses qu'on a connues, reçues, vécues, sont à renouveler. On était parti il y a quelques semaines du psaume 110, qui était un psaume un petit peu étrange pour mon propos, mais j'aimerais le reprendre. Un psaume qui a marqué ma vie, avec un verset qui a marqué ma vie et qui la marque encore toujours. Psaume 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne se repartira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres, de morts. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. On a vu que c'était un psaume qui était un psaume dans un contexte messianique, un contexte de rétablissement. Du temps de Jésus, les apôtres attendaient le rétablissement d'Israël. Et Pierre tirait la manche de Jésus et disait « Quand est-ce ? À quel moment tu vas rétablir le royaume ?» Et Jésus lui dit « Attendez d'être rempli du Saint-Esprit. Pour le moment, c'est ça l'important. 2000 ans après, c'est toujours ça l'important. Que cette pluie de l'arrière-saison, qu'une église, que des hommes, des femmes, des enfants remplis du Saint-Esprit, eh bien, soient vivants dans le royaume de Dieu. Ce psaume est donc un psaume messianique pour le futur roi qui vient. On sait que pour nous, c'est le Christ Jésus. Mais c'est un psaume de rétablissement. C'est un psaume aussi où on est rétabli dans toute la force. Une question d'étendre le sceptre de sa puissance, de dominer au milieu de ses ennemis. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ton peuple est plein d'ardeur. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu a encore un peuple qui est plein d'ardeur? Un peuple qui est vivant, qui est debout, qui est motivé. Comment est-ce que Dieu peut ranimer la vie, la motivation pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il nous donne. On a vu pas mal de choses sur le contexte messianique qui était en Jésus-Christ. On a vu que les prémices de tout cela, eh bien, c'est aussi l'Église. Nous avons vu que Christ est roi et sacrificateur, il est prophète. Tel il est, tel aussi nous sommes. Dans l'Apocalypse, il dit « Tu as fait d'eux un royaume des rois et des sacrificateurs. » Comment est-ce que cette chose-là peut prendre sa place dans ma vie? Elle peut prendre sa place dans ma vie par le Saint-Esprit. Il y a l'enseignement, il y a la lecture de l'Écriture, il y a d'autres choses à côté. Mais déjà, accepter de vivre rempli du Saint-Esprit en communion avec l'Esprit-Saint. Depuis 2000 ans, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Recevons le Saint-Esprit. Depuis 2000 ans, l'attente, le désir du cœur de Dieu est toujours le même, ça n'a pas changé. Ce n'est pas des nouvelles doctrines, ce n'est pas une nouvelle compréhension du passé, du présent, de l'avenir. C'est de vivre rempli du Saint-Esprit pour tous, grands, petits, pauvres, riches, adultes, enfants, hommes, femmes. L'Écriture est très riche sur mes serviteurs, sur mes servantes, sur les gens âgés, sur les jeunes, sur les enfants. Je répandrai mon esprit avec les dons. C'est aussi cela, entrer dans ce statut, fils de roi, dans l'adoption, être aussi sacrificateur, avoir ces compétences, cette qualité aussi d'intercession, de faire ce lien entre le ciel et la terre. Dans ce domaine-là, tout ce que Christ est, je le suis ou je peux l'être en partie. Dieu a tout donné à Christ et le Christ veut nous donner tout ce qu'il est. Et le Saint-Esprit veut nous donner, veut nous faire cadeau de tout ce qui est en Christ. Alléluia. Nous sommes chacun ensemble, partiellement et en plénitude, tout ce qu'est Christ. J'aimerais lire un texte avec vous, un texte qu'on a lu, relu, mais on le relit ensemble encore. Dans Éphésiens 4, Dieu en Christ nous fait des dons au lit à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, de l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant l'amour, la vérité dans l'amour, nous croîtrons, nous aurons une croissance à tous égards, nous grandirons en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire sa croissance, son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Pour Dieu, tous les chrétiens sont concernés par son plan. Chacun est appelé à être quelque chose dans l'Église, j'allais dire, même si c'est qu'un lien. Mais heureusement qu'il y a des liens. Mon corps tient, toute l'ossature, même si elle a vieilli, tient avec tous ces... Le corps humain est quelque chose d'extraordinaire. Le corps de Christ est la même chose. Que ce soit les membres les plus visibles, ceux qui sont cachés, que ce soit des plus petits ou plus importants, chaque chose est importante, chaque lien est important. Et là-dedans, nous avons tous un appel, une vocation, nous avons tous des choses à bâtir, à entretenir, à vivre et à développer. Des dons pour le service, Christ fait des dons, il fait des dons pour la structure de l'Église, il fait des dons aussi pour la vie, pour avoir de l'épaisseur, pour avoir de l'action. Christ est au milieu de nous pour que chacun reçoive son appel, sa vocation qui est unique et qui en même temps à côté des autres va faire que l'Église est quelque chose d'extraordinaire. Alors les dons pour le service, ça pose toujours beaucoup de questions. À chaque génération, il y a beaucoup de modestie ou de faux orgueil. « Oh oui, mais vous savez, les dons, c'est pas pour moi. Moi, je suis modeste dans l'Église. J'aime pas trop qu'on me voit. Le Seigneur a ses chouchous, à ceux qui poussent devant. » Dieu donne de l'honneur à ceux qui en ont le moins. Faisons attention qu'à vouloir avoir trop de modestie, trop de faux orgueils, j'ai appris que c'était peut-être de l'orgueil caché, que Dieu veuille nous pousser sur le devant de la scène. J'ai dû régler ce souci dans ma vie à une époque. C'est genre, Seigneur, tu sais, moi, on voit tous les autres, mais voilà, puis à un moment donné, il faut accepter d'avancer. Parfois, ça peut nous entraîner dans des conflits, dans de la comparaison, dans de la compétition. Parce qu'on regarde toujours les autres. Dieu me regarde pour ses dons pour moi. Et il veut développer pleinement son plan de salut dans ma vie. On peut avoir des réticences parfois pour des dons spectaculaires. Il y a des hommes qui ont reçu le don de guérison. Le don de guérison, c'est dangereux, parce que dans l'Église, on a souvent tendance à les mettre sur un piédestal, alors à les mettre dans la lumière. Si on pouvait recevoir le don de guérison et puis le vivre de manière naturelle, comme les autres dons. Nous avons besoin de tous les dons de l'Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer pour tout le monde. On lit encore 1 Pierre 4,10 et puis on passera à un questionnement plus pratique sur les dons spirituels. 1 Pierre 4,10, là aussi c'est un des textes clés pour pratiquer les dons spirituels. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Dieu veut me donner des dons, pas pour moi-même, pas pour ma satisfaction personnelle, mais pour l'édification de tous. Être un bon économe, un bon dispensateur. C'est une richesse, c'est quelque chose d'extraordinaire que de recevoir des choses pour les autres. Être un bon intendant ou un bon dispensateur, c'est un oikonomai, un économe. Entrer dans l'économie des dons pour les autres, grâce et les charismes. Et puis les mettre au service, c'est diakonoutes, être un diacre. Avoir vraiment cet esprit d'être et de faire, non pas pour moi, mais pour les autres. Nous sommes tous concernés, nous tous qui croyons, nous sommes qui sommes en Christ. Nous avons tous de l'amour pour pratiquer les dons. Nous sommes tous concernés par les fruits de l'esprit. Il y en a 7, il y en a plusieurs, on peut même tous les pratiquer. Là. La joie, l'amour, la sagesse. Nous sommes tous concernés par les dons spirituels. Nous sommes tous concernés par les services que Dieu donne. Même si Dieu donne des services structurants, les 5 ministères, des ministères d'anciens, de diacres, dans ces 7 ministères, il y a toujours des choses qui nous concernent parce que même si notre responsabilité, quel que soit le niveau qu'elle a, il y a toujours quelque chose là où on peut aider. On peut toujours aider dans un domaine, qu'il soit spirituel, qu'il soit pratique ou autre, mais qui est concerné aussi par ces ministères structurants. Nous sommes tous appelés à pratiquer les dons spirituels avec cet esprit de béatitude, cet esprit de la croix, c'est-à-dire on fait les choses pour les autres. On abandonne sa vie pour les autres. On ne retient pas les dons de Dieu pour soi, même si c'est bien, Seigneur, bénis-moi et bénis-nous. Il y a la famille, bénis-moi et bénis-nous. C'est bien, mais Seigneur, bénis-moi pour ton Église, pour les autres. Ça, c'est important. Tout ce que je reçois, je le donne avec une grande liberté. Plus je donne, plus je reçois. Le filet d'eau, qui est peut-être gros comme un doigt, à la fin, il finit, c'est au Karcher. C'est des images, hein, mais c'est tellement extraordinaire que de savoir que Dieu me renouvelle, et me renouvelle de plus en plus, plus je suis là pour être et pour les autres. Fantastique. Avec Jean-Marc, parfois, ça peut être lourd, tous les 15 jours, prêcher, présider l'église, le mercredi, plus tous les autres. Et puis pourtant, au bout de 41 ans, je me dis, mais c'est tellement extraordinaire. Et puis, je vis tellement ce renouvellement de donner, d'apporter aux autres, de vivre pour les autres. Waouh. on reçoit tellement d'oxygène, tellement de choses extraordinaires en retour. La réforme a redécouvert le sacerdoce universel, tous concernés par le service. Ce n'est pas seulement un prêtre une fois par an, ce n'est pas seulement le pasteur tous les dimanches, les anciens, c'est chacun d'entre nous qui est concerné par le service envers Dieu et envers les frères d'Église et envers mon prochain, celui qui est le plus proche. Nous pouvons tous être porteurs de dons spirituels, recevoir une capacité particulière que le Saint-Esprit donne, selon la grâce de Dieu, chaque membre du corps de Christ et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église. Nous avons différentes capacités, compétences, qualifications, fonctions, des qualités naturelles, des qualités spirituelles, des qualités surnaturelles. Par moment, Dieu met le turbo, et puis il sait que par moment, voilà, il faut qu'il y ait plus de foi, plus de ceci, plus de cela pour avancer. Chacun, en fonction de la vocation, de l'appel, de l'unicité dont il est, Dieu dépose des dons dans nos vies et toutes ces choses sont vécues en Église pour être aussi confirmées en Église et affirmées en Église. Les dons spirituels et moi tout seul, ça n'existe pas. C'est les dons spirituels et moi dans le corps de Christ, en Église. Être une pierre vivante dans la construction que Dieu fait. Dieu dépose dans nos vies des dons qui sont confirmés dans l'Église. Parfois, ça va dans le même sens que nos capacités, que nos dons naturels. Parfois, Dieu permet dans nos vies aussi des dons qui sont un peu à contre-emploi pour nous déstabiliser un petit peu. Et puis montrer qu'il peut nous utiliser aussi sur des champs et dans des domaines auxquels on n'avait pas pensé. Là aussi, pour que la gloire, elle revienne à Dieu. Et qu'on ne croit pas que ouais, Dieu me donne ça, je suis capable de guérir les malades. Non. C'est Dieu qui guérit. Je suis simplement porteur de la grâce qu'il dépose sur ma vie. Les dons spirituels, ce n'est pas une récompense pour notre maturité spirituelle. Au bout de quelques mois, quelques années, ouais, Seigneur, je brosse mes chaussures, bien. Je mets le costume, le nœud pape, le queue de pie, et puis, waouh, j'ai l'équipement maintenant, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai un don. Il y a quelques années, quelqu'un nous a même dit, moi j'ai tous les dons. L'homme orchestre, il joue de la guitare, il appuie sur la grosse caisse, il a les gros lots, il a le chapeau avec des trucs qui font de l'ingling. C'est le chef d'orchestre qui est tout seul, s'il n'y a personne qui joue avec lui, bon ça va lasser quand même. Hein. Je crois que c'est Bob Dylan qui a commencé comme cela. Hein. Non ? Jean-Marc, il fait, non ? Il y a des hommes comme ça dans la musique folk qui sont capables d'avoir l'harmonica, d'avoir les guitares, d'avoir les grosses caisses, d'avoir les gros lots sur les bras. C'est pas la pensée de Dieu. Même si Dieu me donne plusieurs dons, que je puisse les vivre en Église. Donc c'est pas une récompense pour la solidité de notre caractère, pour notre équilibre. Tu me donnes des dons, même si j'ai des maladresses, même si je fais des erreurs. Voilà, ça peut peut-être vous sécuriser un petit peu et vous encourager aussi à demander les dons de Dieu. C'est pas seulement... Bien sûr, par contrepartie, ça va m'encourager. Mais recevoir les dons spirituels, c'est surtout et vraiment pour encourager l'Église, pour faire partie du projet communautaire du Dieu vivant. Répandre la communion spirituelle que Dieu nous donne. Cette vocation, cet appel, tous appelés, tous concernés par l'évangélisation de base, pour être témoins dans la vie, tous concernés par le don de soi, par la libéralité. Je peux toujours donné quelque chose à d'autres. Tous concernés, et Dieu oriente notre appel, notre vocation aussi au travers de ces dons spirituels. Parfois, ça peut être aussi avec une demande de formation, d'acquisition de compétences. Pour traduire la Bible, il faut avoir les compétences. Pour construire des églises, pour avoir des missions médicales, conduire un hélicoptère, pour servir Dieu, il y a toutes sortes de compétences, de qualités, de choses qui sont demandées. Dieu donne ce qu'il demande. Il donne l'équipement, c'est comme dans les métiers, dans le sport, hein, on a besoin d'équipement. Dieu donne ce qu'il demande. Je peux avoir peur. Je peux lui faire confiance. Il va me conduire par un chemin où je trouverai, où je pourrai recevoir les compétences. Il donne les aptitudes à, dans une armée, dans une entreprise, toutes sortes de niveaux. Il faut aussi une évaluation, une préparation, une formation pour de la gestion, de la direction, pour les finances. Il faut des formations particulières, pourquoi pas aussi dans le domaine spirituel. Nous sommes en église pour nous former ensemble aussi au don spirituel. Est-ce que l'on peut recevoir et vivre plusieurs dons ? Oui. Pas seulement les hommes appelés à l'apostolat prophétique, pas seulement les pasteurs, mais tout un chacun. On peut parler en langue, on peut recevoir le don de sagesse, une parole de connaissance, on peut... Mais il y a une complémentarité des dons entre nous. Attention, là aussi, donc je disais la comparaison et compétition, respect des différences, on ne va pas tous recevoir le même don. Donc on n'est pas tous sur les mêmes terrains. Chacun rendra compte des dons reçus pour lui-même. On a cette parabole qui dit, voilà, Seigneur, j'ai eu peur, j'ai été l'enterrer, l'autre dit, moi j'ai reçu un, j'en ai produit un. Voilà, que chacun aussi ait aussi ce sérieux avec ces dons reçus de Dieu pour le service. Comment est-ce qu'on découvre ces dons ? Eh bien, c'est comme pour les métiers. Parfois, c'est par l'absence, par le manque. Je sais déjà que ça, je ne suis pas très bien dans ce domaine-là, donc je ne vais pas aller rechercher quels sont ces dons. C'est comme ça qu'avec nos filles, parfois, on a pris une demi-journée, puis on a pris le West France avec tous les métiers, et puis on a épluché, bah, ça je veux, ça je veux pas, ça je veux pas. Puis à la fin, on arrive petit à petit à trouver les domaines qui nous intéressent. Pourquoi pas faire la même chose aussi avec les choses spirituelles, les choses de l'esprit. C'est aussi ça, l'acquisition de compétences. Seigneur, je me sens à l'aise dans tel domaine. Eh bien, aide-moi à le découvrir. Donc, déjà, découvrir les dons que je n'ai pas. Déjà, ça aide. À savoir, alors on a fait ce petit travail il y a quelques années en équipe avec ce petit livre, là, Découvrez vos dons, sur pas mal de samedis et sur quelques mois, on a fait un bilan de nos dons respectifs. Alors ça sera à refaire régulièrement, puisque justement, voir s'il y en a qui régressent ou qui se développent, ou si entre-temps il y a d'autres qu'on a pu développer. Donc, c'est toujours quelque chose qui est à remettre sur le métier. Mais en Église, en tous les cas, les dons, les services sont différents et ils sont additionnés. Nous additionnons nos compétences, nos capacités, nos formations. Nous avons le droit à l'imperfection. Souvent, en équipe, on le dit, on le redit. On a le droit d'avoir le temps de l'apprentissage, on a le droit d'avoir ses nuances personnelles. Chaque personnalité est unique et chaque don, chaque service est unique. Soyons attentifs les uns aux autres. On peut s'entraider aussi, on peut se motiver de manière positive. Nous, on a élevé nos trois enfants avec la motivation positive. C'est-à-dire, on essaye de ne pas toujours que sanctionner ce qui va mal, mais c'est toujours encourager ce qui va bien. Je pense que sa marche est universelle. Et l'Esprit, et Dieu notre Père, vient pour nous encourager au travers des dons spirituels. Et il relèvera toujours dans nos vies tout ce que l'on apprendra qui est bien, que ce soit dans les dons, dans les fruits, dans les services. Dieu sait soutenir la motivation quand elle est positive. Combien de temps on va vivre avec des dons spirituels? Alors, il y en a qui sont pour certaines périodes, quand Dieu fait des choses extraordinaires et quand l'œuvre de Dieu avance, par certains moments, eh bien, Dieu a envoyé des hommes dans des villes qu'on appelle des hommes d'ouverture, des hommes clés. Il y a des familles, il y a des hommes qui ont été dans une ville, qui ont permis d'ouvrir une église, puis après qui sont passés à autre chose. Il y a des périodes pour le travail dans la radio, enfin voilà, pour toutes sortes d'œuvres, pour toutes sortes d'avancées dans l'église, eh bien Dieu envoie avec des dons spécifiques pour un temps. Mais la plupart du temps, on reçoit les dons pour le moyen et pour le long terme. L'apôtre Paul, collaborateur, on voit dans toute la lecture de ses épîtres, eh bien que ces gens qui avaient des dons, qui étaient prophètes, qui étaient enseignants, qui étaient... ces choses-là ont duré jusqu'à la fin de leur jour. Donc, la durée d'exercice, la plupart du temps, eh bien, c'est pour le long terme. Donc, on peut s'installer aussi avec les dons que Dieu nous a donnés, mais ça peut être dans des situations précises, ça peut être aussi exceptionnel. Ces dons sont universels, c'est pour tous. Jean-Marc regarde sa montre. Je vais arrêter là, je vous laisse avec cette réflexion un petit peu pratique sur les dons. L'équipe est toujours là pour répondre à vos questionnements dans ce domaine-là et puis pour vous accompagner. Mais voilà, soyez ouverts, on est une église qui est jeune. qui se renouvelle, donc soyons ouverts avec cette question-là, voilà, laissons tomber nos inhibitions, n'ayons pas peur de rater, d'apprendre par l'erreur. En 40 ans de ministère, souvent dit avec Jean-Marc, là on voit, il y a pas de le risque n'est pas si élevé et si grand que ça, donc là aussi profitons-en, n'ayons pas peur de partager ce que nous recevons de Dieu. Merci pour votre attention.